En dedans, en dehors.
La justice réparatrice.
Un balado de Pauline Voisard.
C'est l'histoire de Mélodie. Par souci de confidentialité, c'est ainsi que nous la nommerons. Elle a 25 ans quand les événements se sont produits. Ils étaient trois. Trois amis qui vivaient à plein régime. Son amie de fille, nommons-la Catherine, disparaît. Mélodie apprend qu'elle a été tuée. 8 mois plus tard, elle apprend que le meurtrier, c'est le troisième membre de leur gang. Mélodie l'a haï, puis elle a voulu se venger, puis comprendre.
Ça a été comme une explosion dans ma vie. J'avais déjà une vie assez olé-olé, mais à 25 ans, on tripe, on a du fun, on a des amis, on se tient toute une gang ensemble. Et puis, à un moment donné, ma meilleure amie est allée souper chez un autre de mes amis. Et puis, elle a disparu. Le lendemain, son père, son frère sont arrivés à la maison, puis ils m'ont dit qu'elle avait laissé son véhicule chez un de mes amis, mais qu'elle était disparue, puis elle était pas revenue. Qu'on a commencé les recherches à partir de ce moment-là. On a fait notre propre enquête. On a tenté de la retracer. Au bout d'un certain moment, donc, l'inquiétude était vraiment à son comble. Et puis, à ce moment-là, je le savais pas, mais le meurtrier de ma chum de fille était avec moi. Il m'accompagnait. J'étais embarquée avec lui dans la même voiture. Et puis, le cadavre de ma chum était dans son coffre de voiture, que j'ai appris seulement après le procès. Au bout du 11e jour, on a fini par la retrouver. Il avait laissé le corps dans un stationnement. Donc, c'est un camionneur qui a trouvé le corps. Et c'est à partir de là que l'enquête pour le meurtre a commencé. Ça a pris 8 mois avant qu'on découvre c'était qui le meurtrier, qui, lui, ben, pendant cette période de temps-là, s'est tenu à mes côtés. Alors, vous pouvez imaginer la trahison que j'ai vécue à ce moment-là. C'était mon ami, il me consolait, mais c'était lui qui avait tué ma chum de fille. À partir de ce moment-là, moi, dans ma vie, tout a explosé. Donc, je me suis mis à consommer, je me suis mis... c'était la débandade totale, là, c'était un suicide à petit feu, un peu, là, comme on l'appelle, parce que j'étais vraiment en train de faire ça. Dans le fond, j'étais en train de me laisser mourir de tristesse parce que j'avais perdu mon ami, mais aussi pour la situation, pour tout ce qui arrivait, j'arrivais pas à gérer. Je perdais ma meilleure amie et je me faisais trahir par un de mes meilleurs amis en même temps. Fait que ça a été... C'était très difficile.
Donc là, tu finis par apprendre la vérité. T'es toute seule là-dedans, là?
Complètement.
T'as pas de ressources?
Complètement toute seule. Pas de ressources. J'ai essayé avec l'IVAC, la CAVAC, tous les organismes qui viennent en aide aux victimes d'actes criminels. Je me suis fait fermer des portes partout. Donc, je me suis retrouvée, à un moment donné, même à l'hôpital, à un moment donné, j'étais en crise suicidaire. Il est arrivé plein d'affaires. Donc, je me suis retrouvée dans une situation critique et même à l'hôpital... Pour aller en psychiatrie, pour avoir de l'aide, je me suis fait fermer la porte d'en face. Fait que ça, à un moment donné, on finit par se dire, ben écoute, je suis pas une victime. On retrouve ça, il mange, puis go, on fonce, on avance, on n'a pas le choix, là. Il y a juste moi qui trouve que j'ai vécu des dommages là-dedans, là. Parce que là, tu es sur l'aide sociale, tu fais de la prostitution parce que tu consommes. À un moment donné, tu n'as pas d'argent pour te payer des séances de psychologue une fois par semaine. C'est pas dans tes priorités. Fait que c'était pas dans mes priorités. Ça allait de débandade en débandade, mais à un moment donné, j'ai dit, je veux vivre. Je veux arrêter de survivre. C'est soit vivre ou mourir, là. Je suis plus capable, c'est un ou l'autre. Puis si je vis, je veux vivre avec une qualité de vie, avec de l'espoir, je veux avancer. Je veux avoir quelque chose. Fait que finalement, ben j'ai décidé de prendre ma vie en main puis de retourner à l'école. Fait que j'étais allée au cégep, j'allais faire une technique d'éducation à l'enfance. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait un premier certificat à l'UQAM que j'ai adoré. ce certificat-là a fait en sorte que j'ai développé l'estime de moi-même. J'étais allée au bout de mes capacités. J'ai découvert que j'avais des forces, une force intérieure. J'étais acceptée en criminologie. Je vais me payer un certificat. Ça va me servir à quelque chose. Puis je suis convaincue que je vais aller chercher des réponses à mes questions là-dedans. Je voulais comprendre ça. Toute la psychologie de la criminalité puis ces choses-là. Donc, c'est ça. Fait que je me suis inscrite au cours et puis j'ai commencé mon certificat. Dans ces fins de semaine intensives-là, j'ai pris le cours de médiation, conciliation, donc pénale ou quelque chose du genre. Je me souviens plus du terme précis du cours. Mais bref, ça parlait de la justice réparatrice et ça parlait de la médiation pénale. À ce moment-là, j'avais quand même un bon cheminement d'entamer dans mon deuil, malgré le fait que ça faisait 10 ans au moins que je traînais ça, ce maudit deuil-là. Là. Je trouvais ça bien intéressant, mais la formule, je trouvais ça quand même un petit peu légèrement farfelu. Dans le sens où je trouvais que c'était un petit peu comme la pensée magique de...
La justice réparatrice?
Oui, oui. Je trouvais que c'était comme un peu une pensée magique, que j'allais m'asseoir devant la personne, que... OK, j'y racontais tout ce que ça m'avait fait, puis qu'après ça, paf, c'était magique, puis tout disparaissait. Puis, on nous a présenté un vidéo. Dans la vidéo, le monsieur avait perdu sa fille et avait fait le cheminement, un cheminement en justice réparatrice et en médiation pénale. Et puis, le monsieur parlait des bienfaits, puis comment il se sentait, tout ça, après avoir vécu ça. Puis lui aussi, c'était un deuil récessif, ça avait pris quelques années. Puis, dans la vidéo, le monsieur, c'est un psychologue. Fait que moi, je me disais, écoute, là, c'est sûr, le monsieur, il est bien équipé, lui. Moi, je suis pas équipée comme lui là, pour aller traverser des choses comme ça. Là. Le but de l'exercice, c'était d'en arriver au bout et d'être capable d'aller m'asseoir devant lui et de lui parler à lui. Ça a été très, très bouleversant dans ma vie. Dû aussi au fait que j'étais seule à traverser tout ça, que ma famille ne comprenait pas nécessairement pourquoi je faisais ça. Je me trouvais même à la limite quasiment maso de m'en placer dans une situation comme ça.
Parle-moi de Luc un peu.
Ah, Luc. Un petit ange descendu du ciel. C'est bien drôle, c'est... Quand je me suis fait fermer la porte par le comité de libération conditionnelle, on m'a dit, ben essaye-toi avec les services correctionnels canadiens. Les services correctionnels canadiens vont pouvoir te donner des informations sur le détenu, puis sur les programmes, puis tout ça. Puis ça va te donner quand même une idée de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a entrepris comme démarche, son cheminement, etc. Fait que genre, ben super, ça me parle, ça. Fait que je vais m'essayer. Fait que je me suis essayée. J'ai embarqué là-dedans. Ça a été tellement une belle rencontre. C'est un homme qui est rempli d'empathie, qui apporte un soutien incroyable. J'ai adoré faire ma préparation avec lui. Il était conscient, en plus, que je faisais ça toute seule. Il était tellement, tellement, tellement supportant. Ça a été une démarche qui a pris, je pense que ça a été quasiment sur 3 ans, là, le temps qu'on puisse... parce que, tu sais, moi, j'avais ma préparation à faire. Après ça, il est allé rencontrer le détenu à... au pénitencier. Le détenu a eu des réactions, donc ça a retardé d'un an. Au bout d'un an, j'ai fini. Moi, Luc, quand, la première fois que la démarche a avorté, dans le fond, là, Luc m'appelle, il était bien déçu de ça, puis il dit, garde, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, on continue d'avancer, on met ça sur la glace, tu confirmes le dossier. Mais je dis, écoute, c'est sûr et certain que moi, je m'attendais à un aboutissement un jour ou l'autre. Mais moi, j'ai déjà cheminé là-dedans. J'ai déjà fait un bout de chemin, tu sais. Puis je pense que je suis rendue au stade où ce que je me dis, je suis assez solide. Tu sais, je me sens correct. Il n'y a pas de problème. Si on va pas au bout de la démarche, je vais comprendre aussi. Ça me donne déjà des gros indices sur sa santé mentale. Parce que moi, c'était vraiment ça que j'allais valider.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, le médiateur, il travaille autant avec toi
oui.
qu'avec l'autre.
Tout à fait. C'est un accompagnement neutre d'un côté ou de l'autre.
Et ce que lui confie, il ne va pas te le dire.
Non.
Et vice-versa.
C'est
il y a
ça.
Comme une confidentialité.
Oui.
Puis l'idée en arrière de ça, c'est de préparer
le dialogue.
Un dialogue.
Oui.
Tout ça est libre. Tu peux arrêter n'importe quand.
Oui.
Le temps, toi, ça faisait déjà plusieurs années que tu étais prête. Oui. Mais est-ce que tu as trouvé que ce temps-là...
Ah, c'est nécessaire.
Oui.
Ah, tout à fait. C'est absolument nécessaire. Il faut absolument que les deux personnes soient prêtes à partager quelque chose de particulier. On va pas là pour laver notre linge sale. On va pas faire une brassée de linge, là. On va là pour réparer des choses qui ont été brisées humainement. On va pas... moi, je m'en allais pas dans l'optique d'aller taper sa tête puis d'aller dire « Ah, toi, je t'ai haï, t'as tué ma chambre. » C'était vraiment pas ça le but de l'exercice. Mm-hmm. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là, qu'est-ce qui t'a passé par la tête. C'était une des questions que j'y ai posées drette de même. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête?
Puis t'as eu ta réponse?
Oui.
Dans les préparations, y avait-tu des choses, des endroits où tu voulais pas aller? C'était-tu clair? C'était-tu aussi clair que ça ou...
À ce moment-là, non, j'ai vraiment été ouverte. Vraiment, j'ai été complètement ouverte. J'ai tout voulu savoir. J'ai voulu aller au bout de la démarche complètement. Je savais qu'il y avait des choses qui étaient pour me dire qu'elle allait me faire du mal. Je savais que Luc était là aussi. Donc, le fait que Luc était là, puis que je savais qu'elle allait me supporter là-dedans, je savais que j'allais l'encaisser, mais que j'avais le support de Luc aussi pour m'aider, ça a vraiment fait en sorte que j'ai eu l'ouverture totale. Puis je me suis dit, regarde, on y va, là. J'ai ma chance, on y va. Moi, là, dans le fond, là, la médiation pénale puis la justice réparatrice sont arrivés à un moment dans ma vie où ce que je savais que j'avais plus de ressources. J'en avais plus. J'avais frappé à toutes les portes. Le CLSC, la santé mentale, l'hôpital. J'étais partout. La CAVAC, l'IVAC, je les ai toutes faites. Toutes faites. Personne ne voulait m'aider. Je le sais que le système fonctionne pas bien. Puis la seule affaire qui me restait, c'était la justice réparatrice puis la médiation pénale. C'était la seule affaire qui me restait. La seule.
Te rappelles-tu des minutes avant... d'être arrivé en dedans, là. T'as-tu des souvenirs, tu sais, des...
J'ai encore l'odeur de la pièce parce qu'on était à la chapelle. Fait que ça sentait encore l'odeur de l'encens dans la salle. Je me souviens des chaises, tu sais, des détails niaiseux, là. Mais, je me souviens de... Ah ouais, je me souviens de tout précisément. Je me souviens de l'aumônier qui m'a accueilli. Je me souviens de mon trajet... dans le pénitencier. Puis pourtant, c'était pas la première fois que je rentrais dans un pénitencier. Là, j'avais quand même fait des rencontres avec d'autres détenus, là, avec la justice réparatrice. Fait que, tu sais, j'avais quand même une petite expérience, là. Mais, je me souviens de ça. Je me souviens vraiment le feeling que j'avais, là. C'est intense. Puis ça part pas, ça. C'est des souvenirs qui restent... J'étais fébrile. J'étais fébrile, mais je savais que j'arrivais à l'aboutissement de quelque chose, que ça faisait des années que j'attendais. J'étais fébrile, mais je me sentais rassurée. J'étais préparée. Je savais où je m'en allais. Luc, il était à côté de moi. Ça, c'est comme fier au combat, là. On s'en allait, là, puis enfin, là. C'est enfin le moment qu'on attendait depuis toutes ces années-là. Parce que, tu sais, je me dis, lui aussi, là, il devait être content, là, à un moment donné, d'en venir à bout de ce dossier-là, là. Tu sais, hey, c'était long, là. C'était long, puis lui partait de Québec, il venait faire des rencontres avec moi, tu sais. C'était quelque chose, là. Luc m'avait demandé aussi, est-ce que tu préfères qu'il soit assis face à toi, à côté de toi, etc. Non, je préfère qu'il y ait un objet entre nous. Ça, c'était pour moi, c'était comme important pour garder la distance. Pas que j'avais peur de lui, ou pas que j'avais peur qu'il... Mais je trouvais qu'une proximité... d'y apporter une certaine proximité faisant en sorte que j'y faisais un cadeau, je voulais pas y faire de cadeau. C'était formel comme rencontre. Puis je voulais que ça reste comme ça. J'ai fini par lui faire comprendre que je comprenais qu'est-ce qui est arrivé. Pas que je pardonnais ses gestes, mais que je comprenais puis que j'espérais de tout cœur qu'il répare. Peu importe la façon qu'il ferait, mais je voulais qu'il trouve une façon de réparer. C'était important, ça, pour moi. Puis là, il y avait comme un certain cheminement aussi. Fait que... Puis il m'en avait parlé, fait que... Pour moi, ça, c'était satisfaisant, j'étais contente. Donc, on a fini la visite avec un câlin. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort, puis après ça, je l'ai laissé partir. À ce moment-là, là, j'ai vraiment fermé le livre de cette histoire-là. C'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Je sais pas si c'est de la force ou c'était vraiment la fin de l'histoire.
Tu disais aussi toute la question du pardon. Là. Tu dis, t'aimerais ça trouver un autre nom.
Tellement!
Est-ce qu'on peut pardonner des gestes comme ceux-là?
Je peux pas. Il y a tout le temps un moment donné où ce que l'histoire te repasse dans la tête puis tu finis par dire « Ah, je l'haïs, lui, là, il m'a tellement fait chier. » Fait qu'en bout de ligne, tu peux pas... Tu sais, je veux dire, j'accepte le fait que, bon... Il a vécu des épreuves épouvantables. Ça a fait en sorte que ça a construit un homme qui a posé des gestes épouvantables. Mais à la base, c'est un homme. C'est un être humain. La société l'a construit comme ça parce qu'il est arrivé plein de choses, parce que notre système, c'est un système pourri, parce que il y a plein de choses qui ont fait en sorte, plein d'éléments qui sont venus contaminer cette personne-là pour en faire l'être humain qui est devenu. Mais à la base, là, il n'est pas né meurtrier, ce gars-là. Là. Alors, c'est ça. C'est ce qui a fait que j'ai pu passer par-dessus. Pas pardonner, mais accepter. J'ai accepté qu'il soit comme ça. Est-ce que j'y en veux encore des fois? Oui. Ah oui. Oui, ça me fait de la peine. Tu sais, j'aimerais ça être avec mon ami encore aujourd'hui, moi. J'aimerais ça partager plein de choses avec elle. Mais aujourd'hui, moi, je suis toute seule. Mon ami n'est plus là. Lui est décédé, il ne souffre plus. Mais moi, je suis encore là. Ben, j'essaie de me battre. Fait que j'y en veux. Pour ça, oui.
Mm-hmm.
Mais il faut avancer. On n'a pas le choix.
Y a-t-il un temps pour démarrer une justice réparatrice avec toute l'expérience que t'as puis le vécu, là?
Faut que tu sois capable de réfléchir. Quand t'es enragé, tu peux pas réfléchir. Faut que tu sois capable d'avoir l'ouverture à l'autre aussi. Quand t'as été blessé, traumatisé, quand t'as vécu des viols, quand t'as vécu des choses, des blessures aussi profondes que ça, ça prend un certain temps avant d'être capable de s'ouvrir à l'autre. On a vécu des choses difficiles. C'est difficile de s'ouvrir à un autre être humain. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être... Tu sais, c'est sûr que la rage, elle est là. On la contrôle. Elle est là. Mais il ne faut pas être envahi par ces émotions-là, parce que quand on est envahi par ces émotions-là, on n'est pas réceptif, puis on n'a pas l'ouverture. Mais ça, c'est ma théorie à moi. Est-ce qu'il y a d'autres victimes qui, eux, sont allées vivre des expériences en médiation pénale et puis que ça s'est passé super bien puis ça faisait 6 mois qu'ils venaient de vivre quelque chose? J'en doute fortement à cause de la bureaucratie puis du système actuel. Impossible d'arriver à faire une démarche comme ça en 6 mois de toute façon. Fait que je pense que, justement, le temps que ça prend pour enclencher ce type de démarche-là, ça fait en sorte que la personne, soit la victime ou le contrevenant, a le temps d'avoir une certaine réflexion par rapport à ça. Et je pense que cette réflexion-là, ce temps-là, est important avant d'embarquer vraiment dans le croustillant de la démarche. Fait qu'il faut vraiment être préparé. Pour moi, justement, le fait d'avoir la chance d'aller le valider en face faisait en sorte que je voulais aller voir aussi si je pouvais valider mon intuition. Oui, je l'ai cru. Moi, je l'ai cru. Il était sincère, puis de la façon qu'il a répondu à mes questions aussi, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il dise la vérité. Puis il savait, j'y avais dit aussi, je sais que tu vas me faire mal, là, mais ça peut pas être pire. Fait que je veux la vérité. Puis le fait de la voir face à face, de pouvoir le regarder dans les yeux, de voir ses réactions, ça a fait en sorte que ça m'a beaucoup aidé. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que mes intuitions étaient bonnes. Mes intuitions sont bonnes. Je peux me fier à mon jugement. Mm. C'est sûr que quand on se blesse, il y a des blessures que c'est facile de les réparer. On met un petit onguent, on met une pointure, on met un pansement, on attend quelques jours, puis à un moment donné, la blessure est fermée, puis c'est fait, fini. On la voit, cette blessure-là, c'est pas un problème. Une blessure intérieure, là, souvent, là, ça prend du temps. Puis il faut trouver la bonne source, la bonne ressource pour nous aider. Des fois, c'est difficile, des fois, on n'en trouve pas. Des fois, on est rendu complètement au bout du rouleau, puis on pense qu'il n'y en a pas d'aide. Mais finalement, il y a tout le temps une petite porte quelque part où on peut aller cogner, puis on finit par en recevoir, puis on finit par avoir du soutien.
Es-tu contente de ta vie?
C'est difficile. C'est pas toujours le fun. Mais je ne les changerai pas pour rien au monde. C'est ma vie. C'est à moi. Maintenant, j'en ai plein de possessions. C'est moi qui décide. Je fais tous mes choix. J'assume ce qui se passe. Puis j'ai encore plein de rêves à réaliser. Maintenant, j'en ai encore. Chose que j'avais pas il y a 15 ans. J'avais plus de but. J'avais plus de rêve. J'avais plus rien. Oui, j'ai été victime de plein de choses dans ma vie, puis oui, c'est arrivé. Mais non, je suis pas le style de personne qui va se revictimiser dans des situations ou qui va. Non, j'ai pas ce trait de personnalité-là. Non, je suis une fille que, bon, j'ai passé au travers, c'est fait, c'est passé. On passe à autre chose. On s'enligne sur d'autres choses. On avance. Je veux pas rester stagnante. Je veux pas rester à me morfondre. C'est pas ça la vie. J'ai pas plus confiance au système, j'ai pas plus confiance en rien, mais moi, je vais chercher ce que j'ai besoin dans ce que je vis puis autour de moi, puis ça me satisfait comme ça, là. J'ai choisi de donner ma vie aux jeunes en difficulté. Fait que moi, c'était important pour moi parce que c'est la base. C'est la base d'un être humain qui est bien construit. Ça va faire en sorte que ça va faire un être humain qui va avoir moins de risques de développer des comportements criminels. Mais ça va faire aussi un être humain qui va avoir moins de risques de développer des comportements de victime et qui va se revictimiser parce qu'il est mal construit. Fait que c'est un petit peu ça ma mission, dans le fond. C'est d'essayer de donner tout ce qui est en mon possible, mes connaissances puis mon soutien aux ados puis aux enfants en difficulté pour essayer de faire en sorte que ça soit là les adultes mieux construits de demain. La confiance, ça revient pas. La confiance, ça revient pas. On finit par s'adapter. On finit par se trouver des outils pour pouvoir fonctionner. Mais la confiance dans le système, la confiance dans les gens, c'est des choses qui... Moi, personnellement, au bout de 15 ans, c'est pourvenu.
Recherche, réalisation et production Pauline Voisard. Son, Jean-Michel Berthiaume. Montage et mixage sonore, Roger Guérin. Musique originale, Michel Groslot. Chargé de production, Mathilde Martin. Une production de Equijustice avec la collaboration de Justice Québec.